Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Les mots ont du sens et surtout les mots blessent. Donc quand il s'agit de faire un choix, est-ce qu'on peut pas essayer de faire un choix de mots qui font du bien? Ou à minima, qui sont hyper pragmatiques et qui sont descriptifs, mais qui sont pas dans un truc de patte de chameau et qui finalement veut montrer qu'on devrait en avoir honte. Et mal baisé, mon Dieu, mal baisé.
Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tout s'explique, le podcast sur la sexualité de 20 minutes. Aujourd'hui, on accueille une guest spéciale dans notre studio podcast. Vous la connaissez sûrement sous son pseudo Instagram, Je m'en bats le clito. Elle a su apprendre à ses plus de 600 000 abonnés les bases d'une sexualité libérée, comment réintroduire la communication dans son couple, parler du plaisir en solo, déconstruire les tabous et les hontes, bref... On lui doit beaucoup à cette influenceuse de 26 ans, leaduse d'opinion, j'ai nommé Camille Aumont-Carnel. Et en véritable pédagogue du sexe, elle revient avec un nouveau livre pile dans le thème de la rentrée, un dictionnaire du cul édité avec les éditions Le Robert. On la reçoit donc à cette occasion pour qu'elle nous parle de ce nouveau projet et surtout qu'on déconstruise ensemble notre langage. Toutes nos expressions liées à la sexualité, celles qu'on ne veut plus entendre, on révise aussi en revenant sur celles qu'on utilise mais dont on ne connaît pas vraiment la définition, et puis toutes les autres qu'il reste à inventer et que Camille s'est fait un plaisir de créer dans ce livre pour plus d'inclusivité.
Je m'appelle Camille Aumont-Carnel, j'ai 26 ans. Et je suis la fondatrice d'un compte Instagram qui s'appelle « Je m'en bats le clito ».
J'avais d'abord envie de vous demander si c'est les éditions Le Robert qui vous ont approché ou si c'était une envie, vous, de votre part, depuis longtemps, de créer un dico un peu du cul.
Non, c'est les éditions Le Robert qui m'ont contactée. Ce qu'ils avaient en tête, c'était juste une idée de collection qui traitait de la langue avec des personnes qui en étaient passionnées, avec des personnes qui pensaient la société à travers les mots et à travers la langue. Mais donc, il n'y avait pas vraiment de concept défini. Donc, nous, quand on a commencé à réfléchir ensemble, je savais juste qu'il y avait une collection qui devait être forte et que moi, j'avais le sujet des sexualités. Maintenant, c'est vrai que j'ai eu ce privilège d'arriver au tout début, ce qui fait que c'était presque du sur-mesure. Et ce livre-là, il n'y avait pas de matrice, c'est moi qui l'ai entièrement construite. Et que ce soit les encarts, les parties, les couleurs, la DA, tout ça, c'est des choses auxquelles moi, j'ai pu réfléchir et leur proposer. Mais initialement, ça venait quand même d'eux. Sortir des dictionnaires classiques qu'on connaît, qui sont vraiment très institutionnels, et depuis la nuit des temps, ils existent et on adore ces dictionnaires-là. Mais peut-être arriver avec un format un tout petit peu plus moderne, avec une direction artistique qui peut être présente, là où dans les dictionnaires, c'est un peu compliqué. Et puis surtout, laisser la place à des auteurs. Parce que le Robert, il y a vraiment ce truc de c'est tout un tas d'auteurs qui s'effacent au nom du Robert. Et là, on pouvait un peu plus aller dans l'incarnation et avec des personnes qui pouvaient parler à la première personne.
Et donc, vous avez créé ce dico qui s'adresse quand même à un peu toutes les tranches d'âge,
à
finalement.
Tout le monde. Je suis très, très contente de ce constat-là. C'est justement à la différence des autres ouvrages que j'ai pu faire, et notamment le dernier où il y avait vraiment une tranche d'âge ado très spécifique. Celui-ci, il est vraiment adulte. Ça va de 16 à 96 ans, j'ai même envie de dire. Et c'est vraiment le côté, s'associer à une édition comme le Robert, il y a un peu ce gage de, on va pouvoir aller toucher une communauté que moi je ne touche absolument pas, qui sont en général les personnes de plus de 55 voire 60 ans, qui pour eux constituent la grande majorité de leur cible. Donc ça qui était aussi hyper intéressant, c'est qu'on était complètement complémentaires, on était complètement complémentaires là-dessus. Et l'idée c'était de se dire, les sexualités traversent tout le monde, on a plusieurs, et c'est pour ça que c'est sexualité au pluriel, c'est qu'en fait on a plusieurs sexualités durant toute une vie, et je ne crois pas à, j'ai une sexualité qui a commencé à je ne sais pas quel âge et ça va être la même jusqu'au bout. Et donc c'est pour ça qu'avec un ouvrage comme ça, on peut vraiment traverser toutes les générations. Et le Robert, je pense qu'il y a vraiment ce truc de grands-parents qui vont pouvoir le lire avec leurs petits-enfants, et moi ça me fait marrer, quoi.
Alors justement sur ce terme, les sexualités, on va en reparler juste après. Avant, j'avais d'abord envie de vous demander, vous, est-ce que quand vous étiez ado ou la vingtaine, début de la vingtaine, vous aviez un dico comme ça du cul? Moi personnellement, j'avais un manuel féminin.
D'accord.
Très surprenant aujourd'hui quand on le relit. Mais
ça fait mal.
Ouais, mais est-ce que vous avez eu quelque chose comme ça?
Moi, j'ai eu un objet que je trouve honteux aujourd'hui, qui s'appelle le Dico des filles, qui est un livre pour pré-ado, ado, qui range par ordre alphabétique tout un tas de thématiques, de matières. Et c'est censé nous aider. Et en fait, je me rends compte que moi, c'est beaucoup plus un ouvrage qui m'a complexé qu'autre chose, quoi. C'est un ouvrage dans lequel on nous explique comment faire pour aller discrètement aux toilettes sans qu'on voit notre serviette, comment utiliser un rasoir, pourquoi est-ce qu'il faudrait utiliser un rasoir. Enfin, il y a tout un tas d'injonctions comme ça, moi, avec lesquelles j'ai grandi, qui m'ont poussée aussi à créer tout ce que j'ai créé en 2018. C'est-à-dire que moi, ce compte Instagram, il y avait vraiment ce truc de j'ai besoin de m'affranchir de tout ce qu'on m'a mis dans la tête, j'ai besoin de représenter autre chose que tout ce que j'ai pu voir représenter, qui crée une distance folle entre moi, mes sexualités, ma sexualité, mon corps, et ce que j'ai l'impression de voir représenter dans l'espace public et sur les réseaux et au niveau de la presse. Donc il y a eu à un moment donné cette urgence d'arrêter de faire genre. Et là, avec le livre, il y a aussi ça, il y a... Voici la façon dont on parle. L'idée, c'est jamais d'être dans le jugement et de dire « vous n'avez pas à parler comme ça », mais plutôt « on n'a jamais créé l'espace nécessaire pour juste se poser ». Et je me rends compte que c'est des expressions qu'on utilise au quotidien. Jamais personne ne les a définies. Et l'idée d'aller, et puis à un moment donné, de vouloir disrupter aussi les institutions, et notamment les institutions littéraires comme le Robert, c'était de se dire bah « là-dessus, il faut qu'on soit d'accord. Vous pouvez pas être une institution qui traverse les époques sans à un moment donné « oui, il faut faire rentrer un Katchana ». C'est pas possible. Faire du sale, se faire défoncer. Mais parce qu'il suffit juste d'aller dans la vraie vie et les gens parlent comme ça.
Oui,
donc
sûr.
Le sujet, c'est pas de se dire il y a une langue, il y a une langue noble, il y a une sous-langue, il y a juste une langue, tout court. Et quand on prend le temps de décortiquer les expressions, de les définir, on se rend compte que pour la plupart, et moi ça a été le constat, au départ le livre c'était vraiment... Tout est problématique. 95% des expressions qui touchent à nos sexualités sont problématiques.
Ah oui, à ce point.
Bah franchement, oui. C'est soit de la grossophobie, soit directement issu du milieu de la pornographie. C'est soit un champ lexical pour parler de nos sexes qui s'apparente à tout ce qui est trous, grottes, donc vraiment des endroits dans lesquels on n'a pas du tout envie d'aller, un petit peu sombre, on ne sait pas à quoi ça ressemble. Voilà, il y a tout un tas de terminologies qui ne vont pas. Et je me souviens donc ce premier jet du manuscrit où je me dis, mais en fait, j'ai pas envie de publier juste un livre où en gros, je dis, ouais, c'est la merde. Moi, à un moment donné, j'ai voulu aussi apporter des solutions et aller plus loin. Et c'est pour ça que ce livre, je le trouve intéressant, c'est qu'il y a vraiment cet aspect, bah, venez, on essaie de réfléchir ensemble avec déjà la richesse de la langue française, à qu'est-ce qu'on pourrait apporter comme petite proposition. Et après, il y a tout un pendant qui est la cruauté de sensations, d'émotions, de choses qu'on vit au quotidien dans nos sexualités, où il n'y a pas de mots. Et on ne s'est pas mis d'accord.
Oui.
Ça veut... et je trouve ça cruel pour deux raisons. La première, c'est comme si on nous disait « ça n'existe pas ». En fait, et on ne veut tellement pas que ça existe qu'on ne va même pas trouver de mots pour ça. Et la deuxième, c'est vraiment comment est-ce qu'on sort du tabou et comment est-ce qu'on en parle entre nous quand on n'a pas les mots, quand on n'a pas les armes pour se dire « ok, on est quand même toutes et tous d'accord que là, on parle quand même d'une réalité commune ». Et donc, je trouve que le fait de trouver les mots, ça repousse le sujet du tabou ou... Du moins, ça crée de la hauteur, parce que, et c'est la question un peu transversale dans tout l'ouvrage, où je dis, mais finalement, qu'est-ce qui est tabou quand on le vit tous ?
Et donc, avant de trouver des solutions et des nouveaux mots, vous analysez les expressions qu'on a aujourd'hui et vous les analysez avec l'aide d'une personne.
Absolument.
D'une personne qui s'appelle Noémie Marigné, qui est sociolinguiste, spécialiste des questions de genre et de sexualité. Qu'est-ce que ça vous a appris, vous, de travailler avec cette sociolinguiste ?
Qu'on travaille mieux avec deux cerveaux qu'avec un seul cerveau. Et puis, d'avoir des zones de génie qui étaient complémentaires. C'était vraiment le fait de se dire, moi, je ne suis pas linguiste, je suis pas, j'ai aucune connaissance sociologique. Moi, vraiment, je parle de l'intime. Et je parle à la première personne et je parle en faisant un condensé de toutes les archives nationales des insatisfactions sexuelles françaises que j'ai depuis 5 ans. C'était plutôt ça, moi, mon point de vue. Et avec Noémie, c'est vrai qu'elle, elle avait vraiment toute cette connaissance, souvent sociologique, presque culturelle et politique des termes, qui fait que ça pouvait apporter quelque chose de très complémentaire, dans le sens où il y avait, moi, mon passage qui, je sais, va être perçu comme quelque chose de très rafraîchissant et de très drôle. Et j'ai ce truc où j'écris comme je parle. Donc, on a limite l'impression que je suis dans l'oreille des gens en train de parler. Et Noémie qui, pour le coup, va apporter quelque chose... de très, 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 très profond et que moi, je trouve brillant.
Oui, elle vient confirmer des intuitions que vous avez, comme quoi le mot porte un sens et véhicule des images de la sexualité.
Absolument.
L'une des premières bases que vous posez au moment d'écrire le livre, c'est de parler des sexualités au pluriel. Pourquoi c'est important pour vous de le rappeler, ça ?
Parce que je trouve que ça donne une liberté folle. Ça ne nous inscrit pas dans un moment, dans un état. Le peu de liberté qu'on a, on se la fait enlever par un espèce de truc de voici sexuellement qui je suis à l'instant T, comme si on avait un espèce de contrat qu'on signait et après on a du mal à naviguer. Le fait de présenter la notion d'asexualité, ça nous permet justement de naviguer dans toutes ces sexualités et de se dire qu'il y a du renouveau et que du coup c'est parce qu'il y en a plusieurs qu'il faut constamment qu'on soit en train de communiquer avec nos partenaires pour justement se dire ok, on en est où ? On est pluriel. Et nos sexualités et nos goûts et nos envies le sont aussi. Et surtout, tout doit être constamment mis à jour, checké, communiqué, mesuré, nuancé. C'est, tout se joue là-dedans. Et puis le fait de se dire qu'on a le droit de changer d'avis, on a le droit d'évoluer. Ce qui nous excitait il y a 2 semaines peut nous dégoûter dans 2 mois. Et surtout rappeler que c'est OK. Parce que le sujet, c'est juste, en fait, qu'est-ce qui t'excite ? Et ça serait bien qu'on arrive à se refocus un peu là-dessus, avec évidemment du consentement. Mais le fait de parler de sexualité au pluriel, ça c'était important, et le fait de revendiquer une sexualité joyeuse, c'est censé être un moment joyeux. Et pour que ce soit un moment joyeux, il faut absolument qu'on s'attarde sur les questions de violence sexuelle, de consentement, de zone grise. Et c'est justement parce qu'on va les définir qu'on va pouvoir peut-être, plus tôt possible, et je l'espère pendant toute votre vie, accéder à des sexualités qui seront joyeuses.
Alors quelque chose de très intéressant, mais d'assez curieux aussi, au début du livre, vous commencez avec un chapitre consacré aux règles.
Ouais.
Les règles, c'est pas forcément de la sexualité. Bon, en tout cas, on peut avoir des rapports sexuels pendant les règles, absolument. Ça, il n'y a pas de souci. Mais c'est pas une pratique sexuelle d'avoir non. ces règles. Donc pourquoi avoir commencé par faire un chapitre consacré aux règles ?
Ça a commencé parce que c'est traversant en termes de cycle, enfin tout ce qui est le sujet des cycles menstruels, moi je trouve que c'est complètement traversant à nos sexualités, c'est-à-dire ouais. que les périodes où on va être très excité, les périodes où on va pas du tout l'être, les périodes où en fait on le sait pas, mais il y a notre col de l'utérus qui est redescendu parce qu'on est en période d'ovulation et du coup on le sait pas, mais il y a certaines positions qui font mal parce que parfois on a un utérus rétroversé, entreversé, donc pareil. Donc on peut pas nier qu'en fait le sujet des règles est quand même intrinsèquement lié à la sexualité et aux sexualités. Par contre, le sujet du mot, parce qu'on en revient toujours à la langue,
ouais.
moi le mot règle m'épouvante.
Ouais, c'est-à-dire ça vous énerve.
Et ça m'énerve, et surtout, il y a un côté où je me moque, quoi, où je me dis, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Et je le dis dans le livre, je dis, mais c'est le phénomène physiologique de mon corps, le moins régulier, le moins réglé, le moins réglementé. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on a appelé ça règle, quoi ? Alors que moi, je préfère les appeler les irrégulières, parce ouais. que c'est quelque chose de complètement irrégulier. Ça ne régule pas ma vie, au contraire, ça irrégule ma vie. Et je trouve qu'il y a certains moments où le sujet des sexualités va prendre et va être moins important que le sujet des mots. Et là, avec le sujet des règles, c'est exactement ça. C'est-à-dire que moi, mes sexualités sont intrinsèquement liées à mon cycle menstruel.
Oui, et ce qui vous énerve aussi, vous l'expliquez, c'est le discours un peu d'euphémisation, d'adoucir certains mots pour ne pas paraître vulgaire, etc. Ça, c'est quelque chose qui revient souvent. On euphémise toujours la vie sexuelle, quand on traite des femmes, en tout cas.
Surtout, absolument. Ouais. Merci pour cette nuance. Absolument, il y a une façon d'aborder ces thématiques-là et de les schématiser, de les imager qui me pousse à me demander mais pourquoi est-ce qu'on veut rendre ça un peu chou, quoi ? Qu'est-ce qui fait qu'on veut rendre ça passable ? Comme si en l'état, nos corps, nos fluides, nos parties du corps, nos volontés, nos... comme si c'était pas présentable, quoi. Et c'est aussi ça que je trouve très cruel. C'est non, le sexe n'est pas un acte qui se veut hygiéniste, quoi. C'est pas il y a des fluides, on transpire. Et c'est ça qui est beau, et c'est ça qui est sympa, et c'est ça qui est agréable. Et pour le coup, on va pas faire genre qu'il se passe autre chose. Et donc toute cette volonté, notamment dans le sujet des règles, donc des irrégulières, de parler des règles comme étant quelque chose de mignon, les coquelicots, les Anglais débarquent, les ragnagnas, ça ramène à un langage soit très enfantin, je trouve, les ragnagnas, il y a un truc un peu zizi zigounette, mais comme si le mot règle était quelque chose d'épouvantable. Je me demande, en fait, qu'est-ce qui va pas dans ce mot-là ? Il y a un terme qui existe, le terme c'est avoir ses règles, et dans ce cas-là, utilisons-le, ou avoir ses irrégulières. Mais cette volonté d'apporter une image qui va d'un seul coup faire que la communication va être possible sur un sujet comme ça, fait qu'on s'en sortira pas, en fait, du tabou. Les règles, c'est les règles, et point barre. Et en fait, si ça fait tourner de l'œil, bah, tourner de l'œil, quoi. Moi, c'est sans moi, quoi.
Donc, dans ce livre, vous proposez des nouveaux mots comme les irrégulières, mais il est aussi là pour instruire, donc on apprend plein de choses dans ce livre. On parle du clitoris, bien sûr, ça c'est une base, je pense. On voit des mots comme la prostaglandine, donc on apprend ce que c'est. On parle de tie and dye naturel du vagin. Ça aussi, j'ai trouvé ça super intéressant.
Ça, il faut absolument en parler. Là, il faut en parler dans le podcast, c'est pas possible.
Ouais, bah expliquez-nous alors.
Ah bah, tout ça est parti, je me souviens, c'était il y a... Donc mon compte Instagram a 5 ans, je reçois à peu près 250-300 messages par jour. Donc, c'est dire le nombre de personnes avec qui j'échange. Et quand je dis que j'ai en ma possession vraiment les archives nationales de la satisfaction et de l'insatisfaction sexuelle française, c'est pas des blagues. Et là, pour le coup, je j'exagère pas. Et je me souviens très, très bien, il y a 4 ans, une abonnée qui m'écrit complètement en panique et elle m'envoie une photo de ses sous-vêtements propres, on va être très clair, et qui sont... pour les sous-vêtements qui étaient foncés, complètement décolorés au niveau de l'entrejambe. Et je me souviens très très bien, elle m'envoie un message et elle m'envoie un audio en même temps, et c'est un audio de panique. C'est un audio de panique où elle me dit « Je comprends pas, il y a un truc qui va pas en fait, moi. » Et c'est là que vient l'importance de la connaissance. C'est « Ah non, non, en fait, c'est normal, ça nous arrive à toutes. Ça veut pas forcément dire que t'as un dérèglement. Ça veut pas dire... En fait, ça vient juste dire que oui, en fait, tout est fluide et en fait, toute ta microbiote, c'est un microbiote acide. Et que du coup, oui, les teintures ne tiennent pas longtemps. » Disons, il y a un truc qui est hyper fort et en fait, ça déteint et il y a un côté un peu eau de Javel et c'est OK.
Et on parle jamais de l'acidité.
Et on n'en parle jamais. Ouais. Et donc, je me retrouve moi avec... Et j'ai fait un post là-dessus et je me retrouve avec des milliers de personnes qui me disent « En fait, tu ne te rends pas compte. » C'est-à-dire que moi, quand j'allais en date, je choisissais les sous-vêtements clairs pour être sûre que l'autre personne ne voit pas que potentiellement, il y a ça dans mes sous-vêtements. C'est des sous-vêtements que je me suis empressée de jeter au bout de quelques jours dès que je voyais que ça arrivait. Et puis, j'étais limite à deux doigts d'aller consulter pour voir s'il y avait un truc qui allait pas. Mais c'est là, quand je parle de la cruauté du tabou et de fait de pas avoir de mots, c'est ça. C'est exactement ça. C'est qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, dès l'adolescence, on n'est pas déjà en train de faire des vannes et des blagues entre nous sur justement le pouvoir de notre tie and die. Et c'est ça, quand je dis il manque des mots, c'est ça. Et dès lors où j'ai sorti le post et qu'on a commencé à échanger, elle m'a dit, dans le groupe WhatsApp, on en a parlé, on s'est toutes dit, ah mais toi aussi t'as ça. Mais je pensais être la seule, je pensais être trop chelou. Et ça, ça revient souvent. J'ai juste besoin que tu me dises que je suis normale. J'ai juste besoin que tu me dises que je suis pas bizarre.
Et du coup, toutes les informations que vous délivrez dans le livre, elles proviennent avant tout d'un témoignage que vous recevez et ensuite vous cherchez, c'est ça ?
Absolument, c'est exactement comme ça que je fonctionne. En général, moi, tous mes projets ont un côté très participatif et je me nourris énormément des retours que me font ma communauté. Et c'est quelque chose que je tiens vraiment à garder, c'est le niveau de transparence et l'aisance qu'on a à communiquer entre nous. Mais parce que avant tout, c'est le commun des mortels, quoi. C'est la population, c'est les citoyens, c'est les citoyennes. Et c'est des personnes avec qui je trouve que échanger, ça apporte justement moi, ma capacité à prendre de la hauteur. Sinon, on en vient très vite à Camille Aumont-Carnel, telle qu'elle est en tant qu'être intime, qui écrit un livre et qui, du coup, parle que à la première personne. Moi, j'aime aussi ce côté où je peux, à travers ce livre-là, parler à un maximum de personnes, mais pour la simple et bonne raison que je me suis basée sur un maximum de personnes pour pouvoir écrire.
Alors, dans le livre, il y a aussi tout un chapitre sur les violences sexuelles qui rappelle ce que c'est le consentement, ce que c'est la zone grise, la culture du viol, donc un chapitre... plus lourd que les autres, mais essentiel. Et puis, vous revenez aussi sur des expressions qui sont toutes faites. On en a parlé au début du podcast. Le point G, être un bon coup, avoir une bouche de suceuse, la patte de chameau, être mal baisé. Ouais. Il y en a une qui vous énerve plus que les autres.
Ah bah toutes. dans toutes celles que vous m'avez citées. Oui, je pense que être mal baisé et patte de chameau, moi, ça reste deux expressions. Patte de chameau, si vous voulez, c'est la forme que peut prendre le sexe féminin ou la vulve féminine quand, en fait, on porte des sous-vêtements ou on porte des habits qui vont être particulièrement près du corps. Moi, je me souviens que ça a été source de complexes énormes pour tant de mes copines au collège et au lycée parce qu'en fait, c'est le moment où on commence à faire du sport et le nombre de personnes qui se moquaient d'elles, qui pointaient du doigt en mode « Ah, mais t'as vu, elle, en mode patte de chameau ?» Mais comme une volonté de dégrader la personne, un peu comme... pour justifier le fait que du coup cette personne n'est pas dragable quoi. C'est un non mais t'as vu à quoi ça ressemble, mais laisse tomber l'enfer. Là on n'est même pas dans la sexualisation, on est dans la volonté de nuire à la personne et dans une volonté que ça soit conscient ou inconscient, mais finalement de lui faire très très mal et de la faire sentir honteuse. Et donc là c'est tout un tas de stratagèmes, c'est encore de la charge mentale, c'est du coup je mets pas de leggings, je mets que des jogging larges. Et ça ce qu'il faut comprendre c'est que ça complexe des femmes sur des années, elles s'en défont pas. C'est des femmes qui vont refuser pendant 15 ans de recevoir du sexe oral, c'est des femmes qui vont pas aller voir de gynéco pendant des années en se disant mais en fait j'ai honte, moi mon sexe est bizarre. On va rentrer là-dedans et c'est pour ça que c'est important de définir et de faire comprendre aux gens.
Les mots ont du sens.
Les mots ont du sens et surtout les mots blessent. Donc quand il s'agit de faire un choix, est-ce qu'on peut pas essayer de faire un choix de mots qui font du bien ou à minima qui sont hyper pragmatiques et qui sont descriptifs mais qui sont pas dans un truc de patte de chameau et qui finalement veut montrer qu'on devrait en avoir honte et mal baisé, mon Dieu, mal baisé.
Donc vous trouvez des nouveaux termes. Moi, il y en a un qui m'a un petit peu tapé dans l'œil, c'est le librasexa, pour parler d'une femme qui aime le sexe, tout simplement. Moi, ça m'a fait penser à Samantha Jones, qui a longtemps été décrite comme une énorme nymphomane, alors qu'en fait... Bon, elle avait ses défauts, mais elle avait aussi juste le fait d'aimer la sexualité. Quel est le mot inventé que vous préférez ou que vous aimeriez peut-être voir utilisé par des jeunes?
Moi, je sais que j'ai un rêve un peu fou, mais il y a quelque chose qui me surprendra toujours. C'est quand moi, je dis je m'en bats les couilles, ça choque personne. Et quand je dis je m'en bats le clito, c'est des levées de sourcils, c'est des têtes qui se retournent. Et il y a quelque chose de l'ordre, d'un seul coup, ça devient vulgaire. Quand est-ce qu'à un moment donné, du coup, les personnes qui possèdent des clitoris pourront vraiment utiliser cette expression quotidiennement, sans que ça choque et sans que ça soit un move particulièrement féministe.
Oui, et puis ça se rejoint un petit peu, mais dans le livre, vous dénoncez aussi toutes les expressions qui sont hyper hétéronormées aussi. Et il y en a une quantité de ces expressions hétéronormées.
Mais parce que finalement, la perception du sexe et la façon dont on nous a expliqué qu'il fallait sexer, ça reste, d'un point de vue hyper hétéronormé, hyper pénétratif, tout est en jeu de pouvoir et de domination, il n'y a pas du tout de principe d'égalité dans les sexualités, alors que voilà, normalement c'est complètement lié même à la sexualité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de sujet ni de manipulation et surtout ni de domination. C'est deux êtres égaux qui décident à un moment donné de se faire du bien et de vivre un moment super ensemble. Et on est encore dans un truc où le lit reste un espace de domination. Il y a beaucoup de choses qui pèsent sur les épaules, notamment de beaucoup de femmes, où elles se remettent constamment en question, elles. Et là, mon point, c'est pas de dire, mais du coup, non, ça n'a rien à voir avec vous, mais c'est plutôt de dire, vous faites partie d'une société. Et cette société a été construite, a été pensée d'une certaine façon pour que, oui, en effet, on ne se sente pas libre, on soit complexé. Mais parce que tout nous pousse à nous dire ça.
Dont les mots, dont la parole.
Dont les mots, la parole. Et ça passe par nous, la façon dont on se pense et on se décrit et on débriefe avec nos potes après des rapports sexuels, par les questions qu'on pose, par les... Donc ça, tout part de là, quoi.
Moi, l'expression que j'ai adorée, c'est faire une Pollock. J'ai trouvé ça génial. Vous pouvez expliquer
ce que
c'est.
On s'est posé la question d'un point de vue légal. Comment est-ce que ça allait se passer? Est-ce qu'on pouvait s'attaquer à un mastodonte de l'art comme ça? Faire une Pollock, ça veut dire je vais vous mettre en situation. Vous êtes aux toilettes, vous avez donc vos irrégulières, je répète, ce sont les règles, et vous avez un tampon. Et il s'avère, en fait, on a tous et toutes vécu ça, c'est en fait, on l'a gardé un peu trop longtemps, et donc vraiment, quand on l'enlève, il est hyper plein. Et c'est le moment où on l'enlève, et en fait, sans se rendre compte, ça gicle absolument partout, sur la cuvette, sur le mur. Et donc, il y a des petits points, il y a des petites traînées comme ça de sang, et je trouve que ça ressemble complètement à la patte artistique de ce cher Pollock. J'espère qu'il ne m'en voudra absolument pas, qu'il ne se retombe pas dans ce fond. Mais j'ai trouvé ça très, très... obvious et clair comme parallélisme, mais c'est vrai que je me suis dit, allez, on l'attente et c'est passé.
Il y a une dernière expression que vous utilisez à la fin du livre qui est le before du cul, qui résume assez bien votre message aussi dans ce livre, qui est de connaître son corps, connaître la sexualité et de prendre soin de ça. C'était ça aussi l'objectif du livre?
L'objectif du livre, c'était de pouvoir matérialiser un espèce de doudou. Enfin, moi, j'avais vraiment ce truc de si ça peut vous aider à aller mieux, si ça peut vous aider à mieux vous connaître et si ça peut vous aider juste à vous faire comprendre. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui attendent juste l'autorisation. Et à un moment donné, il y a aussi quelque chose de l'ordre de bah, vous savez quoi, je vous la donne en fait. Explorez, faites-vous kiffer, prenez soin, prenez le temps, jouissez, orgasmez, jouez avec votre plaisir. Le before du cul, c'est un instant T. Ça qui est intéressant, c'est un moment où en fait on va prendre le soin et on va prendre le temps et on va prendre soin de soi dans le seul et unique but de se préparer du mieux qu'on peut pour aller passer un moment de plaisir. Mais j'adore en fait le fait de se dire les moments où je vais ressentir du plaisir, ça se prépare et en fait on peut tirer jusque là et on peut se dire que c'est pas un moment où forcément il faut qu'on aille à l'arrache, c'est pas forcément un moment où tout doit être spontané. Il y a aussi toute cette partie là où en fait c'est prévu. C'est prévu, on s'y prépare, on sait que ça va se passer et on a envie d'arriver dans les meilleures conditions possibles. Et pour beaucoup de personnes, ça passe par « non, non, mais j'ai besoin de me préparer, je ne peux pas juste y aller comme ça sur un coup de tête pour X ou Y raison. » Donc voilà, il y a des bifores de soirée et il y a aussi des bifores de cul.
Parfait, merci beaucoup. Merci. Le livre de Camille Aumont-Carmel est disponible depuis le 5 octobre dans toutes les librairies. Merci d'avoir écouté cet épisode de Tout s'explique. S'il vous a plu, eh bien n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager et surtout à vous abonner sur votre plateforme ou appli d'écoute préférée. À très vite et d'ici là, bonne écoute des podcasts de 20 minutes.